Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Je salue les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent depuis Bamako sur le 99.5 FM. Et voici tout de suite le programme de notre émission. Le Ghana qui s'apprête à dispenser de visa tous les ressortissants de pays africains, le parti au pouvoir en Afrique du Sud qui prône en faveur de l'expulsion de l'ambassadeur israélien et Moscou qui s'alarme des déclarations israéliennes sur l'arme nucléaire. Un média français a dévoilé un rapport de parlementaires hexagonaux qui critique la politique de Paris à l'égard de l'Afrique. La représentante en Russie d'un parti politique ivoirien reviendra sur ces révélations. La ville de Donetsk a été récemment frappée par une série de bombardements de l'armée ukrainienne. Le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU a dénoncé l'hypocrisie des Occidentaux à l'égard des habitants du Donbass. Nous écouterons son intervention. Une plainte collective contre Israël a été déposée à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. À notre micro, un avocat français qui fait partie du collectif déposant plainte nous a dévoilé les objectifs de cette démarche. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est préoccupé par le financement du terrorisme sur le continent africain. Un spécialiste des questions de sécurité a réagi à cette annonce. Le Ghana envisage de supprimer les visas pour les ressortissants de tous les pays d'Afrique, ainsi que pour ceux qui ont des origines africaines. C'est la ministre ghanéenne des Affaires étrangères, Shirley Ayorkor Botchwe, qui a fait cette annonce. Elle a précisé que les ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et du Tourisme du pays prendront bientôt une décision sur ce dossier. La ministre espère que l'annulation de visas permettra au Ghana de donner un nouvel élan au secteur du tourisme et d'encourager les membres de la diaspora à l'étranger à venir visiter ce pays. Ces annonces interviennent quelques jours après l'entrée en vigueur le 1er novembre dernier d'un accord sur l'exemption de visa pour les voyages de 90 jours entre le Ghana et l'Afrique du Sud. Actuellement, les citoyens de 26 pays africains peuvent entrer au Ghana sans visa. Pour rappel, en Afrique, cette initiative fait son chemin auprès de nombreux pays. Le Bénin, les Seychelles, la Gambie et depuis une semaine le Rwanda offrent un accès sans visa aux résidents de tous les autres États du continent. Le Kenya entend aussi mettre fin à l'obligation de visa pour tous les Africains d'ici 2024, selon le président Ruto. L'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, a appelé dans une déclaration de son secrétaire général, Fikile Mbalula, à expulser l'ambassadeur israélien en signe de soutien à la Palestine. Monsieur Mbalula n'a pas été tendre lorsqu'il a évoqué l'opération de Tsahal en cours dans la bande de Gaza. Le militant a qualifié ce qui s'y passe de « génocide ». Il a souligné qu'il s'agit de l'extermination totale d'une nation et que son parti entreprenait les démarches nécessaires pour être du côté de la justice. Pour rappel, le gouvernement sud-africain a récemment décidé de rappeler ses diplomates en poste à Tel Aviv pour consultation en lien avec la situation à Gaza. Pretoria a également appelé Israël à honorer ses engagements dans le cadre du droit international et à garantir la défense des civils sur fond des opérations militaires dans la bande de Gaza. Le 8 novembre dernier, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a exposé un plan en 7 points afin de résoudre ce conflit. La Russie n'a pas apprécié les déclarations du ministre israélien du patrimoine, Amihai Eliyahu. Ce dernier envisageait l'option nucléaire pour bombarder Gaza. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré que Moscou considérait ses propos comme provocateurs et absolument inacceptables. La responsable russe a ajouté que ces affirmations signifient que l'ensemble de la population civile de Gaza est menacée par les armes nucléaires et qu'il n'y avait aucune justification à de telles déclarations, d'autant plus que celles-ci émanent d'un responsable d'un État qui se positionne et est proclamé par l'Occident collectif, seule démocratie au Moyen-Orient. Pour Madame Zakharova, ces propos font également sortir Israël de l'ambiguïté, lui qui n'a jamais publiquement admis posséder l'arme nucléaire. Elle a ajouté que les déclarations d'Amihai Eliyahu confirment que le pays s'est doté d'un tel armement et envisage sérieusement la possibilité de son utilisation dans des scénarios totalement inappropriés. La responsable russe a ajouté que cela doit aussi interroger sur le patronage pratiquement illimité de l'Occident en matière de nucléaire militaire. Elle a conclu en insistant sur le caractère de plus en plus pertinent de la création d'une zone au Moyen-Orient exempte d'armes de destruction massive. Pour rappel, suite aux déclarations du ministre israélien Amihai Eliyahu, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a pris la décision de le suspendre jusqu'à nouvel ordre, dénonçant des propos déconnectés de la réalité. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous souhaite la bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. La politique française-africaine était au menu des discussions à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale à Paris. Deux députés français ont présenté leur rapport sur les relations entre la France et l'Afrique. Et le constat est implacable. Ils ont dénoncé dans ce document la politique du deux poids deux mesures de Paris en Afrique, ainsi que sa tendance à résoudre les problèmes par la voie militaire plutôt que par la diplomatie. Pour les élus français, ces approches ont gravement nui à la réputation de la France sur le continent. C'est pourquoi les auteurs du rapport préconisent maintenant de changer de fusil d'épaule. Dans le viseur des parlementaires, les déclarations des autorités françaises concernant l'Afrique qui sont souvent mal perçues sur le continent. On se souvient notamment de celle de l'ex-président Nicolas Sarkozy, qui avait dit que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire, ou encore de l'actuel locataire de l'Élysée, Emmanuel Macron, qui avait lors d'un événement public à l'université d'Ouagadougou, raillé le président burkinabé en disant qu'il s'était levé de son siège pour aller réparer la climatisation. Je me suis entretenu avec le docteur Nomé Grasse Esso, représentante en Russie du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Elle a réagi à la révélation de ce rapport par un média français. Écoutons-la tout de suite.
Dans un récent rapport parlementaire, il est reproché à Paris de vouloir résoudre les problèmes par la voie militaire plutôt que par la voie diplomatique. Quels sont les exemples négatifs des tentatives de la France de résoudre les problèmes par la force ?
Je vais vous répondre par trois exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple de la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Le président Babou Laurent avait préconisé le recomptage des voix. Il n'a pas été entendu. Le résultat de ça, ça a été 3000 morts. Après 10 ans de procès, le président a été déclaré non coupable. Vous voyez, après la crise post-électorale, le président Laurent Gbagbo avait dit qu'il préconisait le recomptage des voix. Puisque la CEI déclarait son opposant vainqueur et que la Cour, au niveau de la Côte d'Ivoire, disait que c'était lui qui, la Cour constitutionnelle, l'avait déclaré vainqueur, il a demandé à ce qu'on recompte les voix. Les gens n'ont pas voulu recompter les voix. Et contrairement à ça, on a assisté à un comptage des morts encouragé par la France. Il a été bombardé, il a été pris par la France, amené à la CPI, etc. On aurait pu éviter ces 3000 morts et plus s'il avait été écouté et que le recomptage des voix avait été fait. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est avec le colonel Kadhafi. Lui, il n'a pas été entendu. Il a été assassiné. Toujours par la France. Et aujourd'hui, la Libye, qu'est-ce que la Libye est devenue ? La Libye est devenue ennemie des terroristes. Donc les exemples sont partants. Le plus récent, c'est avec la question du Niger. Après le coup d'État du Niger, la France, par la CEDEAO, a voulu régler les choses de façon militaire. Dieu merci, ça ne s'est pas passé comme ils ont préconisé. Mais dans ce discours de guerrier, ce n'est pas fait pour arranger les choses entre l'Afrique et puis la France. Et il serait temps, je pense, avec tous ces exemples que nous avons et tout ce qui se passe actuellement dans le monde entier, que le discours de la France soit plus diplomatique. Voilà, parce que l'Afrique, c'est un continent, c'est pas un quartier de la France.
Les parlementaires ont également préconisé aux autorités françaises de changer d'approche dans leurs relations avec le continent africain. Et selon vous, quel type d'approche devrait adopter Paris avec les pays africains ?
C'est une approche de respect du peuple africain et de l'homme africain. D'abord ça. D'abord, il faut que la France sache que l'Afrique est peuplée d'êtres humains, d'hommes et de femmes qui réfléchissent, qui sont éduqués, qui ont des cultures divergentes, certes, mais qui ont l'intelligence pour réfléchir et pour savoir ce qui est bon pour eux-mêmes. Donc il faut que l'approche soit d'abord une approche de respect du peuple africain et de l'homme africain. Ensuite, l'approche du partenariat gagnant-gagnant. Il est clair que dans ce monde où on parle de globalisation, on ne peut pas réussir seul. Donc on a besoin de partenaires pour pouvoir évoluer. Et ces partenaires-là doivent prendre en compte en compte le poids qu'est l'Afrique. Je ne vous ai pas dit aujourd'hui, parce que l'Afrique a toujours eu du poids dans le monde. Même dans les guerres que l'Europe a connues, il a fallu que les Africains aillent se battre aux côtés des Européens. Donc, l'Afrique a toujours eu du poids et aujourd'hui, plus que jamais, il est important, il serait important que l'approche de la France soit une approche de partenariat gagnant-gagnant et de respect de l'Afrique, l'Africain.
Selon les auteurs du rapport, je cite, « Il faut agir d'urgence pour éviter un risque de contagion et de perte de confiance. » Selon vous, qu'est-ce que l'on entend par « contagion » et n'est-il déjà pas trop tard pour parler de la perte de confiance comme d'une éventualité ?
Je vais commencer par la deuxième question qui parle de la perte de confiance. Et je vous ramènerai à l'époque du président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, pour vous dire que cette perte de confiance ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque du président Félix Houphouët-Boigny, on avait une seule eau minérale en Côte d'Ivoire qu'on appelait Evian. Excusez-moi pour la publicité. Et le président s'était rendu compte que la Côte d'Ivoire avait une nappe phréatique assez saine qui pouvait donner aux Ivoiriens de l'eau minérale. Parce que Evian, ça venait de la France. Et donc, le président, après prendre un échantillon de l'eau issue des nappes phréatiques ivoiriennes, qu'il a envoyé pour faire examiner en France. Les résultats de l'analyse ont été que les Français ont dit que l'eau n'est pas bonne, c'était pas une bonne eau. Il ne fallait même pas, c'est pas bon. Et le président, Félix Houphouët-Boigny, en homme sage et intelligent, a fait quoi ? A pris une bouteille d'Evian. Il a mis la même eau que les Français ont analysée. Il a mis la même eau dans la bouteille d'Evian. Il a fermé, il l'a envoyé en France pour analyser. Ils ont dit, oh, l'eau là est bonne. C'est une très bonne eau, etc. Et quand ils ont envoyé les résultats de l'analyse, le président a dit, OK, j'ai compris, l'eau est bonne, d'accord. Je lance la première industrie d'eau minérale en Côte d'Ivoire, d'où est venue Awa, la première eau minérale de Côte d'Ivoire. Donc, pour que c'est exemple pour vous montrer que la perte de confiance, ça ne date pas d'aujourd'hui. La perte de confiance ne date pas d'aujourd'hui. Et lorsque on parle de contagion, la contagion par rapport à quoi ? Vous savez, avant, les gens n'avaient pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, les gens pouvaient mal se comporter vis-à-vis de nos présidents, de nos dirigeants, et c'était ni vu, ni connu. Mais aujourd'hui, avec le développement de l'accès à l'information, tout ce qui est comme nouvelle, chacun peut, avec une petite connexion, avoir toutes sortes d'informations. Et donc, cette contagion dont on parle, ça a seulement été amplifié. Ce que les Africains ressentaient a été amplifié, solidifié, affermi à partir des informations qu'ils pouvaient avoir de ce qui se passait dans le monde, de comment est-ce que la France se comportait sur le continent, etc. Voilà ce que je peux dire.
Les députés ont également mis l'accent sur les échecs répétés de la communication française à cause de déclarations dégradantes de dirigeants français. Pour rappel, pour nos auditeurs, il y avait Nicolas Sarkozy qui avait déclaré que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. Et plus récemment encore, on a eu Emmanuel Macron qui avait raillé en public le président du Burkina Faso, c'était en 2017, en déclarant que, devant des étudiants à Ouagadougou, que celui-ci était parti réparer la climatisation. Et pouvez-vous rappeler pour nos auditeurs les plus jeunes le contexte de ces déclarations et comment celles-ci avaient été perçues à l'époque ?
D'accord. Le président Sarkozy, Nicolas Sarkozy, après son élection, a décidé de faire une tournée africaine en juillet 2026. Et il a débuté cette tournée africaine par la Libye du colonel Kadhafi. Donc c'était devant un parterre d'invités qu'il a commencé son discours en mettant à l'aise son auditoire, en reconnaissant que la traite négrière et l'esclavage est un crime contre l'humanité, contre l'homme, contre l'humanité. Et puis progressivement dans son discours, il a accusé l'Afrique pour les malheurs qui eux-mêmes, les Occidentaux, les Français, ont causé à cette Afrique-là. Et dans son déroulé, il enfonce le clou en sortant ce discours, un pan de ce discours que vous venez de mentionner tout de suite. Mais Quand on dit que l'homme africain n'est pas assez ancré dans l'histoire, de quelle histoire partons ? De quelle histoire partons ? Lorsque on nous apprend que le premier homme, c'est-à-dire l'homo habilis, dont les plus anciens, dans les plus anciennes traces, remontent à environ 2,8 millions d'années en Afrique de l'Est, ont été découverts en Afrique de l'Est, et que les outils vieux de 3,8 millions d'années ont été découverts au Kenya, on nous parle de quelle histoire ? On nous parle de quelle histoire ? Ensuite, lorsque vous prenez la découverte de l'écriture, ceux qui ont créé l'écriture, ce sont les Égyptiens. Donc, lorsqu'on veut parler d'histoire, c'est l'histoire commence par l'Afrique. L'Afrique est l'histoire du monde. L'Afrique est l'histoire du monde. Et donc, personne ne peut dénier à l'Afrique sa place dans l'histoire du monde. Donc, je voudrais bien qu'on m'explique de quelle histoire il est question. Sinon, l'Afrique est l'histoire du monde. Quand vous prenez le président Emmanuel Macron, dans sa visite de novembre 2017, il s'adresse ainsi au président Roch en disant que il reprend à des étudiants en disant que ce n'est pas sa faute de réparer la climatisation des universités, que c'est le travail du président de la République de Burkina Faso. Le président se sentant vexé, a quitté la salle et l'a dit. Il s'en va pour réparer la climatisation. C'est irrespectueux, c'est irrévérencieux. Aucun président africain ne va se trouver à Paris, en France, et avoir de tels propos vis-à-vis d'un président français. Mais pourquoi est-ce que la France fait ce genre de choses ? Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. On prend le président Sarkozy, oui, on peut citer le président Sarkozy. Nous avons eu des vidéos qui ont fuité en 2002, quand il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire, où on obligeait le président à s'asseoir avec les rebelles pour former, pour négocier. Et il fallait voir dans cette vidéo qui a fuité le ministre d'entre-temps, le ministre de Justice, s'adresser au président de la République de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, comme à son employé. C'était irrespectueux. En Afrique, nous avons le respect des aînés et le respect des chefs. Et lorsque nous voyons des personnes que nous respectons être banalisées, bafouées par d'autres qui, à la limite, sont leurs petits frères même qui peuvent mettre au monde, vous n'allez pas avoir le respect des Africains. Parce que nous sommes ancrés dans nos traditions et dans la tradition africaine, le respect des aînés, le respect des chefs tient une place très, 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 très importante. Donc, si vous voyez, à cette époque, lorsqu'ils ont tenu de tels propos, ça n'a plus à personne en Afrique. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir devant les dignitaires et puis prononcer de tels discours devant tout un peuple. Et ça n'a pas plus à quelqu'un et ça ne plaira jamais à qui que ce soit. Donc, il est important, en tout cas, pour les dirigeants français de revoir leur copie dans leur façon de faire.
Et selon vous, comment ces déclarations humiliantes ont accéléré le processus de libération de l'influence française en Afrique ?
Lorsqu'il y a un feu de bouche, il y a toujours un facteur de propagation. Et ces facteurs de propagation, ce sont les réseaux sociaux, c'est l'accès à l'information qui est devenu vraiment, 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 vraiment assez important au niveau de l'Afrique aujourd'hui. On peut aller dans n'importe quel moteur de recherche, taper Sputnik, et les jeunes Africains s'intéressent à ce qui se passe dans le monde et se cultivent au travers des réseaux sociaux, ont des informations au travers des réseaux sociaux. Donc du coup, ça a donné une force. Chacun peut s'exprimer et voir que les idées ou les positions défendues vont dans le même sens. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe chez les voisins peut se passer chez moi aussi. Et donc, les réseaux sociaux et l'information telle qu'elle est diffusée actuellement aide vraiment permettre cette amplification. Donc, c'est tout ça qui a explosé, n'est-ce pas, qui a explosé et fait exploser l'indignation par rapport à tout ce qui se faisait, se disait dans les salons avant, c'était dans les salons, que les gens manquaient de respect à nos chefs d'État. Maintenant, il y a un autre genre de classe dirigeant français qui se permet de s'adresser de façon irrespectueuse, irrévérencieuse à nos chefs d'État de façon publique. Et les réseaux sociaux n'aident pas, en fait, à camoufler ces choses. Donc, pour moi, c'est cette façon de faire en public de ces dirigeants français et des réseaux sociaux qui ont mis le feu aux poudres. Aujourd'hui, tout le monde est au courant, même dans les villages, de ce qui se passe partout dans le monde.
On a également un fait très intéressant, c'est que ce rapport, consulté par ce média français, met en doute l'efficacité du travail de l'Agence française de développement. Selon les députés donc, qui ont rédigé le rapport, l'agence a alloué des fonds aux pays africains, mais les habitants n'en ont jamais vu la couleur, soit c'est simplement parce que l'agence n'était pas en mesure de promouvoir ses projets. Et comment réagissez-vous à ces révélations ?
Pour ma part, moi, ce que je pense que l'Agence française de développement travaille d'abord pour les Français. Parce que moi, c'est ma lecture des choses. L'Agence française de développement travaille pour les Français pour renforcer la capacité des hommes d'affaires français en Afrique. Moi, c'est ma lecture des choses. C'est ma lecture des choses. Et malheureusement, certaines personnes dans le gouvernement sont complices, sont mouillées, ce qui fait que c'est pas fait pour arranger tout le monde. C'est pas fait pour arranger. Vous imaginez sur le sens que les Africains arrivent, même si l'agence française travaillait correctement et que les Africains qui veulent investir, qui veulent faire des petites affaires, des petits projets, des petits projets, arrivaient à faire ces petits projets, à se développer dans le domaine des affaires, du business, et à commencer à être indépendant. Est-ce que cela arrangerait la France? Ma réponse est non. Donc, d'une part, il y a des aides, qu'on dit aide au développement, mais qui, c'est que de non, en fait. Moi, je me dis que c'est que de non. Parce que si c'était vraiment qu'il y avait une volonté de la France que ces fonds aillent au développement, comme c'est dit, la France a tous les mécanismes pour faire en sorte que ces fonds puissent aller à ceux qui devraient normalement bénéficier de ces fonds. Mais moi, je me dis que ce n'est qu'une structure qui est là pour renforcer la capacité des hommes d'affaires français sur le territoire, sur les territoires africains. Voilà. Parce que c'est au travers des grands groupes que la France a un fort en Afrique.
On a les parlementaires qui ont ajouté concernant l'AFD que les Africains ont besoin d'investissement dans, je cite, l'éducation et les petits projets qui peuvent être mis en œuvre dans un délai plus court et avec un résultat plus visible. Selon vous, quels sont les besoins réels des pays africains en matière de développement ?
Le besoin réel de l'Afrique en matière de développement, c'est d'abord de briser ce pouvoir néocolonialiste sur l'Afrique. S'il y a toujours cette mentalité néocolonialiste qui existe derrière la tête, il y aura toujours des mécanismes pour renverser l'espoir des Africains. Donc pour moi, c'est vrai qu'il y a des besoins en matière d'éducation, d'agriculture, etc. au niveau de l'Afrique. Mais je pense, pour ma part, que la première chose dont il faut débarrasser les Africains, c'est du néocolonialisme. Malheureusement, ce sont les Africains eux-mêmes qui devront faire se battre pour ça, pour être libérés pour une bonne fois pour toutes de cette plaie, de ce cancer qu'est le néocolonialisme.
C'était le docteur Nommé Grâce Esso, représentante en Russie du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire pour Spoutnik Afrique. Elle a commenté la révélation par un média français d'un rapport de parlementaires hexagonaux qui critique la politique de Paris à l'égard de l'Afrique. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique. Ici l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Je vous salue si vous venez de régler votre poste de radio sur le 99.5 FM. Le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, Vassili Nebenzia, a mis à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil de sécurité le récent bombardement ukrainien contre Donetsk. Lancé par l'armée ukrainienne le 7 novembre dernier, il a causé à l'aide de missiles HIMARS et MLRS des dommages sur des biens civils dans le centre-ville à 3 reprises dans la journée. 6 personnes ont été tuées et 55 autres blessées, dont 3 enfants. Monsieur Nebenzia a montré aux autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU des photos de ces attaques. Il a insisté sur le caractère terroriste du bombardement qui consiste à frapper toujours au même endroit pour empêcher l'évacuation des blessés et des morts. Selon le diplomate russe, cette tactique est fermement ancrée au sein de l'armée ukrainienne. Vassili Nebenzia a ensuite condamné la cécité nocturne et l'humanité hypocrite des pays occidentaux à l'égard des habitants du Donbass. Je vous propose d'écouter tout de suite le représentant russe auprès de l'ONU.
Quant aux habitants du Donbass, ils vivent dans ce paradigme depuis 2014, lorsque les victimes de l'agression de Kiev contre ses propres citoyens ont cessé d'exister pour nos anciens partenaires occidentaux. Nous entendons constamment le même mantra. This would not have happened if Russia didn't start it. Cela ne se serait pas arrivé si la Russie n'avait pas commencé. Encore une fois, je voudrais souligner votre cécité nocturne. Vous vous taisez depuis 8 longues années, depuis 2014, lorsque cette guerre a commencé. La guerre que les autorités de Kiev ont déclenchée contre leurs propres citoyens. Vous avez fermé les yeux sur les bombardements méthodiques du régime de Kiev et des bataillons néo-nazis des villes pacifiques du Donbass. Où était donc votre fausse humanité hypocrite?
C'était Vassili Nebenzia, représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, il a fustigé l'hypocrisie des Occidentaux vis-à-vis des habitants du Donbass suite à une série de bombardements qui a récemment touché Donetsk et causé la mort de 6 personnes ainsi que de 55 blessés dont 3 enfants. Pour rappel, le régime de Kiev mène ses attaques terroristes alors que sa contre-offensive largement médiatisée a finalement fait long feu. Depuis 6 mois, les troupes ukrainiennes n'ont pas réussi à percer les défenses russes et à atteindre la mer d'Azov ainsi que la Crimée comme prévu. Moscou poursuit son opération militaire spéciale, dont l'une des tâches principales reste la protection des civils qui, depuis 8 ans, ont été soumis, selon la définition de Vladimir Poutine, à un génocide de la part des autorités ukrainiennes. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre. Un mois après le début de l'escalade du conflit israélo-palestinien, l'effusion de sang continue. Le bilan des frappes israéliennes sur la bande de Gaza approche déjà 11 000 morts. Selon le premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh, le nombre de civils morts en Palestine depuis le 7 octobre dernier a dépassé celui du conflit en Ukraine. Du côté israélien, plus de 1 400 personnes ont été tuées et 239 personnes sont toujours retenues en otage. Face à cette situation, un collectif international de juristes, dont des représentants de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la France, de la Russie, a pris la décision d'agir. L'avocat français Gilles Devert, qui fait partie de cette délégation, a annoncé le 5 novembre dernier, depuis Alger, qu'une plainte serait déposée devant la Cour pénale internationale contre les actions d'Israël dans la bande de Gaza. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que la CPI est alertée sur le conflit israélo-palestinien. Le 3 mars 2021, une enquête avait été ouverte sur des crimes présumés commis depuis juin 2014, tant par le Hamas que par l'armée israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Au micro de mon collègue Kamal Ouadj, présentateur de l'émission L'Afrique en marche, il a présenté les objectifs qu'il vise à travers ce dépôt de plainte, ainsi que les éléments légaux sur lesquels il s'est appuyé dans sa démarche. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
Pourquoi et à quel moment précis avez-vous décidé de faire cette démarche? Qu'est-ce qui a motivé cette démarche?
Il se trouve que je travaille sur le dossier de la Palestine depuis 15 ans, avec un réseau d'avocats, avec beaucoup de contacts en Palestine. Mmh. Et quand nous avons déjà fait plusieurs actions en justice, et quand l'opération militaire s'est enclenchée, nous avions pensé dans un premier temps que c'était une opération comme les autres. Il y a eu 2008, 2014, 2021, etc. Et puis, donc on se préparait en fonction, et puis on a quand même fait l'analyse, qu'on passait à autre chose, c'est-à-dire une attaque de type génocide. Mmh. Et à ce moment-là, on s'est orienté pour faire une procédure urgente devant la Cour pénale internationale.
À votre avis, justement,
vu la réputation que ce tribunal a, nous l'avons vu, c'est-à-dire attaquer des gens quand ils ne sont pas dans le côté occidental, mais quand, comme les pays africains, par exemple. Mais les autres, jamais, comme George Bush ou Tony Blair et autres. Alors, est-ce que vous pensez justement que la CPI pourrait agir dans ce cas-là d'espèce qui est l'attaque de Gaza déclenchée il y a 3 semaines?
Écoutez, la Cour, il y a eu quand même une très forte manipulation des pays occidentaux pour l'affaire d'Ukraine, que tout le monde sait, vu que les pays occidentaux se sont précipités pour déposer plainte et financer une enquête, alors que par exemple pour la Palestine, où les faits sont flagrants, eh bien, il n'y a aucun pays qui bouge. Hein. Donc, il y a évidemment un jeu de double standard. Donc, pour ce qui concerne strictement la Palestine, disons qu'à la suite d'un gros travail qui a été effectué, ben, on a une décision du mois de février 2021 qui a jugé que la Palestine était un État et que cet État était compétent, souverain, sur la Cisjordanie, sur Gaza et sur Jérusalem-Est. Donc, on maintient que c'est un bon terrain, vu qu'il n'y a pas beaucoup de juridictions internationales qui ont jugé que la Palestine était un État. Et Israël a évidemment été très violent sur cet arrêt, en disant que c'est une cour antisémite, et a rejeté le droit international tel qu'il était, et refuse la juridiction de la cour.
Alors, ça fait, il y a 3 jours, le président Tebboune, lors de l'ouverture, c'est le président algérien, lors de l'ouverture de l'année judiciaire 2023-2024, il avait justement appelé tous les avocats qui pourraient participer à déposer ce genre de plainte à la CPI contre les crimes d'Israël d'agir. Est-ce que votre démarche rentre dans ce cadre-là?
On est tout à fait en phase. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'avocats algériens qui avaient déjà répondu à notre appel. Il faut dire qu'on travaille avec l'Algérie de manière structurée. Donc, les contacts se sont renoués très facilement. Et bien, ensuite, il y avait une volonté des bâtonniers algériens de faire quelque chose. Et puis finalement, c'est le chef d'État, alors que l'Algérie n'est pas membre de la CPI non plus, compte tenu de son environnement, ils n'ont pas ratifié, a dit que la protection du peuple palestinien passait par là. Il n'y a pas beaucoup non plus d'autres solutions. Et encore une fois, cette cour, quand on sait qu'elle s'est reconnue compétente, c'est un bon terrain pour la Palestine. Je dirais que quand on voit tous les obstacles qui nous sont créés simplement pour travailler sur ce dossier, on mesure très très bien l'impact que ça peut avoir. J'ajoute que nous avons également le concours d'autres bâtonniers du Maroc, bâtonniers de Tunisie, et que nous avons même le bâtonnier de Tchétchénie, avec tous les membres du barreau qui coopèrent avec nous et qui sont donc sur la plainte que j'ai signée.
D'accord. Donc, et alors, cette procédure, maître, elle va prendre combien de temps? Et dans combien de temps sera-t-elle, pourrait-elle être examinée? Pourrait-elle avoir une réponse au moins préliminaire?
Oui, je pense que dans tous les pays du monde, la justice est un processus qui est long parce qu'il faut de la réflexion, il faut des preuves, il y a des règles. Absolument. De procédure. Donc la justice qui est rapide, en général, c'est pas bon signe. Voilà, donc il faut un peu de temps et on verra bien. La CPI est vraiment pas une juridiction rapide, c'est une juridiction qui est lente. Mais j'espère 2 choses. La première, c'est qu'on trouvera des États qui vont financer l'enquête. Et je crois que certains vont commencer un peu à se faire reconnaître. Comme ça, le procureur n'aura pas ce prétexte de lenteur. S'il y a un budget spécial, en plus que pour les États qui voudraient contribuer, ce ne sont pas des sommes qui sont bien lourdes. Et surtout, nous, on est sur un jeu de la Convention de génocide. Et la Convention de génocide, elle s'appelle la Convention de prévention du génocide. Donc, en l'état actuel, on ne parle pas de l'histoire, on parle de faits qui ont lieu aujourd'hui. Vous voyez, il y avait une avocate qui devait venir avec nous parce qu'elle est sensible, elle a de la famille, elle est elle-même palestinienne, elle vit à El Barreau de Paris, et elle a de la famille à Gaza, elle devait être avec nous, et elle m'envoyait un mot hier pour me dire, ce matin même, pour me dire que, hélas, son oncle, sa tante et les 2 enfants, donc ses cousins, ont été bombardés. Ils sont tous les 4 décédés, donc elle est effondrée et elle ne viendra pas avec nous. Mais c'est pour dire que cette action qui est très forte, vu que nous avons plus de 100 associations, dont certaines associations nationales, qui ont une très large éventail et plus près de 300 avocats, est aussi une manière d'encourager et de traumatiser, je dirais, les opinions occidentales qui sont influentes en Israël, pour leur dire, vous pensez ce que vous voulez de la question palestinienne, mais vous ne pouvez pas rester sur un jeu où vous vous retrouvez complice un génocide, et j'utilise le mot génocide à son sens précis, avec tous les points de jurisprudence jugés par la Cour internationale de justice pour les Rohingyas notamment. Donc on verra bien ce que sera le procès par la suite, mais pour le moment c'est un appel à la mobilisation internationale très large pour dire il faut faire pression, parce que un jour gagné sur le cessez-le-feu, c'est peut-être 1000 vies qui sont sauvées.
D'accord. Ben, j'espère que votre appel sera entendu et qu'il y aura beaucoup de pays qui vont financer cette initiative, pas uniquement pour les Palestiniens, mais pour n'importe quelle personne, n'importe quel peuple qui pourrait subir le même crime. Voilà. Donc,
en tout cas, les gens ne pourront pas dire on ne savait pas, vu qu'on sait, et que 300 avocats très compétents dans ce domaine-là on font un acte de justice pour dire nous on fait une analyse juste et on demande que soit retenue la qualification de génocide.
C'était Gilles Devers, avocat français pour Spoutnik Afrique. Il a évoqué les raisons qui l'ont poussé à déposer plainte contre Israël à la Cour pénale internationale et les objectifs qu'il vise à travers cette procédure. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Récemment, une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est tenue. Au menu des discussions, le nouveau rapport du président de la Commission sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. Le Conseil de paix et de sécurité a fait part de sa profonde préoccupation face au financement du terrorisme et de l'extrémisme violent à travers le continent, compromettant les efforts de l'Union africaine à faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2030. Ce n'est pas la première fois que la question de la prolifération des armes inquiète les pays africains. Pour rappel, en novembre 2022, l'ex-président nigérian Muhammadu Buhari s'était déjà inquiété de l'arrivée d'armes en provenance d'Ukraine. Selon lui, l'arrivée de ce matériel renforçait les terroristes dans la région du lac Tchad et menaçait la paix dans la région. Au micro de Spoutnik Afrique, Souleymane Hamzat, consultant international en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité, a réagi aux annonces du Conseil pour la paix et la sécurité de l'Union africaine. Écoutons-le tout de suite. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est dit préoccupé par le financement illicite des groupes terroristes. Comment réagissez-vous à cette annonce ?
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se réveille dans un monde, n'est-ce pas, à turbulence tardive. C'est pas aujourd'hui qu'il devait s'interroger sur, n'est-ce pas, le financement des groupes dits terroristes, si tel est que nous analysons aussi le problème du terrorisme. Étant un spécialiste de la problématique du terrorisme, je me suis souvent posé la question de savoir est-ce que nos institutions-là, dont vous parlez, l'Union africaine, la CEDEAO, le G5 Sahel, la SADC, la CEAC, toutes ces commissions-là ou institutions qui existent, est-ce qu'elles se sont posées la question de savoir si elles luttent contre le terrorisme, c'est-à-dire l'idéologie, ou contre les terroristes, les individus ou les groupes armés? La question, la thématique, elle est là et la problématique reste posée. Mais à mon avis, je pense que il n'est jamais, de mon point de vue évidemment, hein, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il y a eu des États qui se sont levés tardivement, n'est-ce pas, comme le Burkina par exemple, hein, à travers, n'est-ce pas, le réveil du président Ibrahim Traoré, à qui j'apporte tout mon soutien, ma dévotion, mon salut ici, n'est-ce pas, pour dire que aujourd'hui les terroristes ont changé, la balle a changé de camp, le rythme et la cadence ont changé, et ceux-là qui, n'est-ce pas, se cachent dans les ténèbres, finançant ces groupes armés-là, devaient se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est le fiasco total. Avant, on fuyait les terroristes, mais aujourd'hui, ce sont les terroristes qui fuient maintenant les appareils gouvernementaux. Et il est triste de savoir que des institutions ou des institutions comme celle de l'Union, une institution comme celle de l'Union africaine n'y ait pas pensé très tôt. En 2014, j'avais fait une interview où je disais que ceux qui ne prennent pas cette affaire-là au sérieux, je veux parler du terrorisme, et qui ne se lèvent pas pour mettre les moyens à disposition pour lutter contre, verra ce terrorisme-là à leur porte. Je veux chuter, enfin, pour vous donner un exemple, celui du maréchal Idriss Déby Itno, feu maréchal Idriss Déby Itno qui s'est levé et qui s'était autoproclamé le chantre, n'est-ce pas, de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Il a fait face à toutes sortes de difficultés. Et vous voyez d'ailleurs même, il a fini par être emporté par une faction rebelle nommée le FACS. Bon, le FACS qui dit en réalité que ce n'est pas lui, mais il a fini par être assassiné. Et tout ce qui lui avait été promis, n'est-ce pas, pour parer à toute éventualité, n'a pas été respecté. Les accords qu'il a passés, il a pris l'argent du pétrole du Tchad pour entrer en guerre au Mali, par exemple, et il n'a jamais été remboursé. Donc ceux qui, à l'instar de l'Union africaine, se réveillent aujourd'hui pour chercher à savoir qui sont ceux qui financent le terrorisme, c'est des gens qui, me semble-t-il, ma foi, ne sont pas de ce monde. Ils sont très en retard et complètement à côté de la plaque.
Selon vous, quelles sont les forces extérieures qui financent les groupes terroristes en Afrique et quels sont leurs intérêts?
Là, c'est un problème profond, n'est-ce pas? Cette thématique-là, je pense qu'elle doit faire l'apanage d'analyse au niveau de nos États et plus particulièrement de nos services de renseignement. Ils devaient s'atteler à chercher à savoir qui sont derrière ce financement. Mais bon, que nous prenons le cas du Mali pour aller dans un exemple un peu plus concret. Le Mali a demandé à être reçu, n'est-ce pas, au Conseil de sécurité des Nations Unies pour plancher sur l'armement, le financement et l'entretien des groupes terroristes dans son pays. Et le Mali accusait la France avec des preuves palpables, irréfutables, incontestables. Mais le Mali n'a jamais été écouté. Le Mali n'a jamais été écouté. C'est à croire qu'il y a une certaine duplicité, une certaine complicité entre, n'est-ce pas, le monde occidental et ceux-là qui financent le terrorisme. Il y a un État qui, dont je ne cite pas ici les noms, qui est un État de l'Asie, n'est-ce pas, un peu arabophone, mais qu'on accuse à tort, à cri, de financer le terrorisme. Ouais. Et cela nous donne un peu, c'est un casse-tête, c'est un serpent, si vous voulez, à mille têtes, avec une équation variable. On arrive difficilement à savoir qui sont ceux qui sont derrière. On les connaît, mais les individus, vous n'arrivez jamais à les atteindre. Il est difficile pour nos États, en tout cas les États africains, de dire, par exemple, que tel ou tel individu sont derrière le financement. Mais on voit les États qui acheminent des armes, n'est-ce pas? Puisque l'Afrique n'a pas une usine de fabrication d'armement. On a peut-être des usines d'assemblage sous licence, mais on ne fabrique pas encore de l'armement militaire en tant que tel. Alors d'où nous proviennent ces armes? Qui les fabrique? Qui les vendent? Qui les met à disposition? Ce sont ceux-là qui sont à la base du financement du terrorisme. Donc, les forces extérieures qui financent les groupes terroristes en Afrique, pour nous, en ce moment-ci, ce sont les États. Et dans quel but? Dans le but d'apprivoiser notre sous-sol, de nous dépouiller de nos matières premières, parce que de plus en plus, le monde va vers la technologie. Et la technologie a pour référence les matières premières. Oui. Donc, il faudra que nos États, à travers leurs services de renseignement, surtout le renseignement extérieur, puissent faire un travail de profondeur, un travail professionnel qui, à l'issue du rapport, puisse non seulement faire identifier ceux qui sont derrière cette bêtise et ensuite trouver des voies, les solutions, les voies et moyens par lesquels parer à toute éventualité. À mon avis, ce n'est que par cette méthode-là que nous arriverons à nous tirer des ténèbres.
En novembre 2022, l'ex-président nigérien Muhammadu Buhari s'inquiétait de l'arrivée d'armes en provenance du conflit ukrainien dans la région. Dans son communiqué récent, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a évoqué des liens croissants entre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Pensez-vous que ces réseaux criminels peuvent fournir des armes à l'Afrique sans que les autorités ukrainiennes et éventuellement leurs fournisseurs et sponsors occidentaux ne le sachent?
Écoutez, à ce niveau-là, je vous donnerai deux exemples. Pour le premier, prenons le cas de la Libye qui a été frappée, détruite. Quand je dis détruite, je pèse mes mots. Toutes les casernes ont été, n'est-ce pas, vandalisées. les armes sont parties dans tous les sens. Ceux qui en sont des spécialistes d'achat d'armes, n'est-ce pas, de trafic d'armes, mais se sont immiscés. Et voilà, nous avons vu ce que cela a donné. On a vu un homme malien qui pullule d'armes, hein, d'armes de toutes catégories. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a des armes de destruction massive qui sont jusqu'à là en perdition. Et l'Union africaine ne s'inquiète pas de où sont passées ces armes-là, par exemple. On a parlé d'une quantité de 300, et je peux vous citer, ce sont des manpad. Vous savez ce que c'est qu'un manpad? Un coup de tir d'un manpad sur n'importe quel avion, et puis il est réduit en bouillie. Donc, où sont passées ces armes-là? Qui les détiennent? Qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce que c'est vendu dans un circuit parallèle pour servir, n'est-ce pas, des velléités de déstabilisation, soit tel d'État ou livré pour des attentats? Mais il faut que nos services de renseignement, comme je vous l'ai dit tantôt, puissent investiguer. L'Union africaine, qui a autant de moyens pour organiser des sommets à tout va, à s'impliquer dans des sanctions pour asphyxier des peuples, ferait mieux de prendre cet argent-là pour investiguer, pour savoir d'où viennent les armes, qui les achète, comment elles sont écoulées. Pour ça, c'est pour ce qui est du cas de la Libye. Mais prenons le deuxième cas, qui est un cas un peu plus récent, où c'est que, vous l'avez bien évoqué, le président Buhari se prête, par exemple, des armes de l'Ukraine qu'on retrouve dans la zone de Zamfara, dans les forêts de Sambisa et autres. Mais il n'est pas le seul à se plaindre. Il y a le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, très respecté, d'ailleurs, qui s'est à plusieurs fois plaint, même sur une des chaines russes, Sputnik Afrique, je crois, qui s'est plaint en disant, voilà, qu'on retrouvait aux mains des rebelles, n'est-ce pas, aux mains de ces, moi je les appelle des rebelles, pour moi ce ne sont pas des islamistes. Un islamiste, il défend sa mosquée, il la frappe pas des coups de roquette. Donc ces délinquants notoires vont s'armer dans le désert, par qui le leur apporte? Et on retrouve parmi ces armes-là des armes qui étaient destinées à l'Ukraine. Qui les achemine? D'abord, qui sont ceux qui font des dons? Allons à la base, si on peut un peu creuser. Qui sont ceux qui font de ces dons d'armement, qui apportent de l'aide à l'Ukraine? Alors, qui sont ceux qui sont chargés de la logistique, chargés de les transporter? Et quand les armes sont arrivées à destination, elles sont-elles vérifiées? D'ailleurs, au passage, le président Zelensky lui-même s'est plaint de ce que la quantité d'armes qui lui était fournie n'était pas égale à ce qu'il recevait sur les papiers. La liste n'était pas égale. Alors donc, il se trouve certainement une équipe, un groupe de délinquants notoires qui, au sein de cette organisation-là, s'est constitué un groupe mafieux pour ne serait-ce que détourner une quantité de ces armes-là. D'ailleurs, au passage, il se dit que certaines se trouvent sur le terrain aux mains du Hamas, n'est-ce pas, en Israël. Donc, voilà comment d'autres s'immiscent un peu dans ces jeux-là, n'est-ce pas, sans contrôler que... voilà, les choses sont arrivées à bon port, n'est-ce pas, à destination. Et puis voilà, on retrouve les trucs dans tous les sens. Le problème reste un problème, n'est-ce pas, de vérification, de prise de responsabilité étatique et surtout d'une décision politique saine. Si nos États ne se mettent pas ensemble pour prendre des dispositions pour lutter contre le terrorisme, nous retrouverons le terrorisme à nos portes. Et souffrez que, une fois ces armes-là arrivées, si le terroriste a l'incapacité, n'est-ce pas, d'agir au plan étatique, mais souffrez qu'ils en deviennent, ils en deviennent des petits délinquants. Et d'où la naissance de la criminalité. On abat des gens à bout portant, on leur vole leurs véhicules, des biens, etc., etc. Ouais, le problème est très profond. C'est pas un problème qu'on peut analyser en quelques minutes. C'est une problématique de haut niveau qui doit être peut-être, n'est-ce pas, qui doit faire l'objet d'analyses par des experts, pour retrouver non seulement qui sont ceux qui fabriquent les armes, puisque je sais qu'au sein de chaque armée, il y a ce qu'on appelle la DAMO, la direction armement munitions optiques, qui peuvent retracer les balles qui sortent, les ballons des numéros, il y a des références. Les armes qui sont utilisées sur nos théâtres d'opération ont des références. Donc, on doit pouvoir retrouver qui a fabriqué, quelle usine a fabriqué ces armes, qui les a vendues, elles viennent de quelle direction, etc., etc., etc. Il y a une documentation très nette et précise par rapport à ce genre de business. Et enfin, nous allons chuter sur le comportement à venir de l'Union africaine. Il va falloir que l'Union africaine se prenne un peu plus au sérieux. Quand je dis l'Union africaine se prenne un peu plus au sérieux, à chaque fois qu'il y a des attentats à Sambisa, je ne sais pas, au Burkina, au Ghana, soit-il au Bénin, mais on ne les entend jamais. Il n'y a aucun communiqué là qui vient parler de comment faire pour aider l'État en question. Le Burkina est frappé par le terrorisme, le Mali, le Niger aussi. Mais que l'Union africaine fait quoi pour ces pays-là, pour les aider? Rien, que dalle. Ils vont s'asseoir, ils font des sommets, ils boivent du champagne, ils rentrent chez eux, ils se partagent des pécunes. Nous, là, c'est notre génération à nous n'est plus une génération austère. Nous dirons haut et fort ce que nos dirigeants ne veulent pas entendre. Et d'ailleurs, un petit détail par rapport à la connaissance de l'Occident sur ce truc-là. Mais c'est l'Occident qui fabrique les armes, hein, je vous l'ai dit, c'est pas l'Afrique qui fabrique les armes. Donc aucune arme ne peut quitter l'Occident en direction de l'Afrique sans qu'il ne soit au courant. D'ailleurs, je vous donne un exemple sur le Centrafrique, la République de Centrafrique. Quand le président Touadéra avait besoin d'armes, a demandé, n'est-ce pas, à la France de lui donner, de lui fournir des armes. La France était prête à lui donner des armes obsolètes, récupérées sur des théâtres d'opération. Pour faire quoi de ces armes-là? Franchement, vous voyez à quel point. Et quand le Centrafrique, à travers son président, s'y est opposé, ben, ils les ont renvoyés tout simplement devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, où ils se sont plaints. Ils ont demandé une audience dans le cadre de la diversification des partenariats. Ont rencontré les autorités russes qui leur ont dit, bah, écoutez, non seulement on vous donne le double de ce que vous demandez, mais on vous les donne en neuf. Donc saluons ici aussi, n'est-ce pas, la hauteur que prend le très respecté grand camarade président de la Fédération de Russie, le président Vladimir Poutine, par rapport aux décisions de souveraineté en Afrique. Ce monsieur-là, ici, n'existait pas, il fallait le fabriquer. Mais Dieu merci, grâce à lui, aujourd'hui, il y a des États en Afrique qui essayent de se relever. Grâce à son aide, grâce à les compétences militaires qu'il envoie dans le cadre de la formation, de l'éducation de nos armées, franchement, il n'y a pas match.
Aujourd'hui, on parle beaucoup du conflit israélo-palestinien qui connaît une escalade depuis un mois. Quel risque peut faire peser ce conflit sur la sécurité du continent africain?
Et voilà encore une autre injustice, un génocide à nul autre pareil. Au vu et au su de la couronnée et à la barbe de la communauté dite internationale, c'est triste. Ce qui se passe dans notre monde-là. Ce monde-là est un monde d'injustice dans lequel il va falloir que la loi du talion soit appliquée par les Africains. Chaque Africain qui voudra défendre son territoire doit savoir prendre des décisions adéquates pour parer à toute éventualité, même au péril de sa vie. Les dirigeants que nous avons aujourd'hui doivent accepter de mourir pour leur nation. On veut plus de dirigeants dits démocrates, de grosses cravates bien nouées qui viennent endormir le peuple par des discours. On a besoin de gens qui sont pragmatistes, des dirigeants pragmatistes, qui savent faire face à la réalité et qui savent prendre des décisions. Analysons un peu la sécurité, n'est-ce pas, dans cette partie-là du monde. Vous voyez qu'il y a au Yémen, déjà le Yémen, il est complètement détruit. Allez un peu plus bas ici, du côté de la Somalie, nous avons les Chebabs. Un peu plus bas, le Soudan, les Janjaweeds. Mais vous pensez que dans ce méli-mélo, y compris la crise soudanaise qui vient de se réveiller il y a presque un an maintenant, que les gens ne sont pas en manque de munitions ou d'armement? Et que ce conflit-là ne peut pas servir à alimenter d'autres réseaux? Mais bien sûr qu'ils le feront. Ceux qui en sont des spécialistes vont s'immiscer, même si les armes, que dit-on, ou l'armement ne vient pas de ces pays-là, mais d'autres profiteront de ces couloirs-là pour faire passer du matériel vers l'Afrique. Et cela peut être, n'est-ce pas, une autre porte, n'est-ce pas, d'écoulement de l'armement et par conséquent d'alimentation des actes terroristes à travers ce trafic-là d'armement et certainement d'hommes aussi. Parce qu'il faut bien des hommes derrière une arme pour qu'elle puisse crépiter. Donc, vous voyez, c'est un problème géopolitique, géostratégiquement politique qu'il faudrait que l'Union africaine doit avoir un droit de recours. Il ferait mieux de se réveiller, ces messieurs de l'Union africaine. Et au passage, nous lançons un appel au président Moussa Fakir, qui est quelqu'un que nous savons de bonne foi. n'est-ce pas, de très bonne volonté. Il va falloir casser les œufs pour faire des omelettes. Si dans votre entourage, vous remarquez qu'il y a des gens qui vous, n'est-ce pas, foutent les bâtons dans les roues, mais débarrassez-vous d'eux. À un moment donné, mais acceptons de mourir pour la bonne cause quand même. Et il est inadmissible de constater que, n'est-ce pas, on a des dirigeants qui sont là que pour les avions, les sommets, le match vu devant les téléviseurs, devant les caméras de télévision. Et il est temps que tout ça s'arrête. Que surtout, ce conflit-là israélo-palestinien n'en devienne pas encore une brèche, n'est-ce pas, qui vienne s'ouvrir et surtout serve d'écoulement d'armement, de munitions et d'hommes sur l'Afrique.
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine appelle les États à prendre les mesures nécessaires afin de lutter contre ce fléau. Récemment, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé un accord militaire et de défense mutuelle appelé Alliance des États du Sahel. Celui-ci prévoit justement, dans son article 4, la lutte contre le terrorisme. Quelle est la meilleure solution à mettre en œuvre pour lutter contre le terrorisme sur le continent africain, selon vous ?
Le communiqué de l'Union africaine qui, sont des communiqués de nature à prendre des mesures nécessaires pour lutter contre le terrorisme n'engage que ceux qui les lisent. L'Union africaine peine à mettre sur pied une armée depuis, des lustres. Je me rappelle bien que le général Konaté de la Guinée a été convié même à procéder, n'est-ce pas, à la mise en place et à la concrétisation de ce projet-là. Jusqu'à là, ils peinent à le faire, mais ils ont la facilité à trouver des dizaines de milliards pour organiser des sommets. Mais diantre, on nous prend pour des briques de 12 creuses. Il faut qu'on arrête de nous prendre pour des idiots. Créer une armée stipule qu'il faut y avoir, n'est-ce pas, le paquetage, procéder au recrutement, trouver les moyens de payer les hommes et les armer, leur donner le matériel adéquat pour le faire. Est-ce que l'Afrique en est incapable? Je vous donne un exemple qui puisse permettre le financement d'une armée pareille. Tous les pays qui ont du pétrole en Afrique, là, mais que chacun, selon le budget de revient, disons le budget au prix de revient de la matière qui est vendue, mais donne par exemple, je sais pas, 0,5% à 10%, n'est-ce pas, du quota de vente qui a été, n'est-ce pas, recueilli comme bénéfice pour constituer la mise sur pied, la mise en disponibilité opérationnelle de cette armée. Faut rien, font que dalle. Prenez l'or. On a plein de pays en Afrique là qui extraient l'or, qui le vendent, et ça marche. Et il y a beaucoup de minerais comme ça. Je ne parlerai pas du coltan, je ne vous parlerai pas de l'uranium, je vous parlerai, etc., etc., de beaucoup de choses qui puissent permettre à l'Union africaine, sur la base d'un consensus, lors d'un sommet, que tel ou tel ou tel pays puisse donner, 0,5% du revenu de vente de tel ou tel ou tel minerai. Ça permettrait nettement de constituer une armée mais capable et opérationnelle, avec des moyens de dernière génération, n'est-ce pas ? Refuser à un moment donné de subir, c'est passer à l'action. Et je pense que les autorités, nos autorités au niveau de l'Union africaine devaient arrêter de prendre des communiqués et de passer aux actes. Ceci étant, revenons maintenant à la question de l'Iptako Gourma, l'Alliance des États du Sahel, n'est-ce pas, créé sous le leadership du président malien, Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta. Mais écoutez, c'est une très bonne alliance. Et d'ailleurs, vous voyez les résultats au travers de leurs accords de défense qui les lient. Vous voyez quels sont les résultats sur le terrain. Aujourd'hui, ce sont les terroristes qui ne dorment plus. Ils n'ont plus le sommeil maintenant, les terroristes. La zone des trois frontières, complètement, ils sont en débandade. Au niveau national, vous voyez les exploits des militaires burkinabés, des VDP que nous saluons au passage, avec témérité, respect et admiration. Mais vous voyez combien de fois, n'est-ce pas, ces gens-là sont en train de reconquérir le territoire. Ils ont besoin de notre appui. Posez-vous la question de savoir que fait l'Union africaine pour le Burkina Faso? Rien du tout. Que dalle. Demain, qu'il y a un coup d'État, je ne sais où, dans une autre partie du monde, vous allez voir venir prendre des communiqués bidons. C'est de l'irresponsabilité notoire au paroxysme du terme. Et nous demandons à ce que cela s'arrête. Ils n'ont qu'à arrêter de nous prendre pour des idiots. Nous, nous sommes conscients. Et s'ils ne font pas leur job, je vous assure tout, la génération qui est la mienne et pire, celle qui viendra après nous, n'est-ce pas, ils dormiront plus sur leur deux lauriers. ces générations-là va les empêcher de dormir sur leurs deux lauriers. Je dis mes propos et je les assume.
C'était Souleymane Hamzat, consultant international en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité pour Spoutnik Afrique. Il a réagi aux déclarations du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le financement illicite de groupes terroristes sur le continent africain. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Maliba FM, à vous l'antenne.
Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.